Les micros de fréquence oscillée voyagent pour vous faire respirer et découvrir l'air du pays de la Haute-Sarthe. Et vivre des rencontres, des échanges, des entretiens en direct d'une manifestation, d'un lieu, comme si vous y étiez.
Fréquence oscillée vous fait revivre tout l'été, planète en fait. Cette manifestation autour de l'agriculture biologique et du développement durable s'est déroulée les 6 et 7 juillet à Saint-Pierre-des-Nids en Mayenne. À l'occasion des 10 ans de Planète en Fête, une équipe de fréquenciers y a installé son studio itinérant pour recueillir les interviews des participants, exposants, producteurs, acteurs du développement durable.
Saint-Pierre-des-Nids, donc des exposants qui à la fois présentent des choses qu'ils réalisent et puis aussi des choses qui démarrent. C'est en l'occurrence ce qu'on va aborder avec Jean-Luc Bourg qui est de Villaines-la-Juhel et qui est d'abord ici parce que il est artisan, créateur d'objets autour du cuir.
Voilà, je fabrique depuis le 1er janvier, je fabrique des objets en cuir, notamment des ceintures, des porte-monnaie, des sacs à main. Et les porte-clés personnalisés, c'est-à-dire que le porte-clés est fait en cuir à Villaines-la-Juhel et c'est la personne intéressée qui dessine son porte-clés, autant par la forme que par le contenu.
Vous dites que vous avez commencé en janvier, vous n'aviez jamais travaillé le cuir avant ou...
Si, je travaillais le cuir avant, j'ai fait des formations parce qu'avant j'ai travaillé à l'hôpital, j'étais... aide-soignant à l'hôpital d'Alençon.
Un exemple de reconversion, la fameuse théorie, on ne fera pas le même métier toute la vie.
Voilà, tout à fait. Ça fait 37 ans que je travaille pour les autres, donc 25 ans dans la fonction publique hospitalière. J'avais envie de faire autre chose. Donc j'ai fait des formations par le biais de l'hôpital, profité du système, notamment de la NFH, qui propose des formations, jusqu'à 3 ans de formation pour un personnel sur toute sa carrière. Donc moi, j'en ai profité pendant 6 mois et j'ai fait une formation, c'est lié au haras du pain.
Ah, c'est intéressant ça. Et donc, votre objectif était de changer de mode de vie finalement ou d'activité purement et simplement ?
Oui, mon objectif était de... J'étais fatigué d'aller travailler tous les jours, enfin tous les jours, 3 jours par semaine parce que nous faisions des journées de 12 heures par jour à l'hôpital. Donc, j'avais envie de faire autre chose et surtout de travailler pour moi, de me faire les dernières années de travail que j'ai encore à faire. Je voulais les faire pour moi. Et pour rendre service aussi, parce que je suis aussi meneur accompagnateur de tourisme équestre et je propose des promenades aux touristes quand ils le veulent. On part du Potolet ou d'ailleurs, ça peut être aussi des promenades en forêt sillée si vous le désirez. Je propose des promenades avec un attelage, soit avec un seul cheval, soit à 2 chevaux. Les chevaux, c'est
comme normal. Pour prendre un terme simple, vous êtes passé du statut de fonctionnaire, voilà.
Exactement.
À un statut d'entrepreneur.
Voilà. J'ai commencé comme cela et si ça continue, actuellement j'ai le statut d'auto-entrepreneur, mais dans quelques mois, si la loi évolue, ben moi aussi j'évoluerai, je prendrai le statut d'entrepreneur ou d'artisan.
Alors vous nous disiez justement que vous étiez en train de lancer un musée.
Voilà.
De quoi s'agit-il ?
Voilà, depuis 2006, nous avons créé un musée à Villaines-la-Juhel qui s'appelle le Potolet. Le Potolet, c'est l'histoire de la transformation du lait à la ferme de 1750 à 1950. Le Potolet, c'est 360 m² d'exposition, c'est 1200 outils, tous aussi propres les uns que les autres. De toute façon, ils passent d'abord à l'atelier avant de venir au Potolet. Et on évolue comme ça. Et il y a une particularité au Potolet, c'est qu'il n'y a aucun nom sur les outils. Je veux qu'il y ait un dialogue entre moi et les visiteurs. Donc on commente tout le long de la visite, je commente les outils.
Donc ce sont des visites guidées, ce n'est pas des visites libres ?
Ce sont des visites guidées, et notamment pour les maisons de retraite. Les maisons de retraite font beaucoup pour nous, ils viennent souvent chez nous, parce qu'on fait aussi un atelier mémoire, c'est-à-dire que c'est les visiteurs, c'est les résidents qui me donnent le nom des outils et leur utilité. Et figurez-vous que ils sont très très passionnés. J'ai vu une dame qui ne parlait plus depuis des mois et des mois, qui avait la maladie d'Alzheimer. Et à un moment, elle a reconnu une baratte qui était la même que la sienne. Elle a dit 2 mots, ma baratte.
Ah,
et ça,
formidable.
C'était formidable.
Alors, ce musée, donc, il est ouvert tout le temps ou il y a des saisons quand même
Oui, il vaut mieux de mai à octobre, hein, parce que les autres moments, il fait plus ou moins froid quand même s'il est isolé, mais il n'y a quand même pas de chauffage. Donc, sauf la pièce d'accueil où on regarde une vidéo, parce qu'il y a une petite vidéo qui a été tournée dans une petite commune qui s'appelle Ségri.
Pas loin de chez nous, oui.
Oui, c'est pas loin de chez vous. Donc c'était au domaine de la Grande Chaumière à Ségri où on a tourné une vidéo Et c'était, on part de la traite jusqu'à la motte de beurre en fabrication tradition.
Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de... Parce que vous n'êtes pas du tout dans le domaine de l'élevage ni de la transformation du lait.
Oui, mais je l'ai été. J'ai été 4 ans à l'école d'agriculture, de 14 à 18 ans.
Vous en avez fait des choses alors?
Oui, j'ai fait beaucoup de choses. Et la vie a décidé que je ne serais pas paysan.
Et c'est un regret, la façon dont vous le dites?
Oui, presque. J'aurais été paysan.
Dans l'âme.
Oui, et paysan dans l'âme.
Et vous insistez sur le mot paysan.
Voilà, pour moi, il y a une différence entre un paysan et un agriculteur. Dans mon langage, c'est différent. Mais bon, ça n'engage que moi. Et là-dessus, donc moi, j'aurais aimé avoir une ferme, une petite ferme, polyculture et pédagogique surtout, accueillir les gens. J'ai toujours aimé accueillir les gens, soit en pédagogie, soit en accueil de ferme auberge.
Donc ce que vous faites maintenant avec le pot-au-lait, avec ce musée-là, pour le réunir les outils, ça a été compliqué? Vous êtes mis à plusieurs, je suppose?
Non, c'est toujours moi et ma femme qu'on a réuni les objets. On a commencé dans les années 80. On a commencé par un objet, une baratte, puis deux, puis cinq, puis dix, et puis ainsi de suite. Et on est arrivé à 1200 outils.
Avec c'est énorme quand même.
Oui, c'est énorme, mais sur 25 ans, c'est pas beaucoup par an. Sur 25 ans, c'est pas beaucoup par an, et on essaye d'aller beaucoup plus loin. On a notamment une large collection sur le fromage et sur la fabrication d'un fromage qui s'appelle le Salers.
Ah, c'est pas vraiment notre région là.
C'est pas notre région, mais j'essaye de faire plusieurs régions, d'être polyvalent aussi dans les régions, parce que en Mayenne et en Sarthe, il n'y a pas eu de grands crus de fromage. Dans la Mayenne, nous, on a eu le Port-Salut.
Entrame.
Maintenant, c'est l'Entrame. Oui. Hein. Le camembert, c'est pas loin de chez nous non plus. Donc, on parle du camembert, on parle de la tome. On a un bon fromager là, par chez nous qui s'appelle la tome de Pré-en-Paille.
Absolument.
Qui est un fromage excellent.
Très, très juste.
Mais l'entrame qui est très très bon. Et puis le Saint-Fiacre aussi dans la Mayenne qui est un bon fromage. Et qu'on fait justement, pourquoi je parle de ces fromages-là? C'est parce que les groupes qui sont intéressés, il y a une dégustation de fromage issu de l'agriculture biologique après la visite.
Ce qui est toujours intéressant.
Voilà.
Les jeunes, les écoles peuvent aller visiter ce musée avoir une séquence pédagogique. Vous avez parlé de ferme pédagogique. Est-ce que c'est un musée pédagogique aussi pour les enfants?
Oui, bien sûr, parce que nous faisons aussi des ateliers de fabrication de beurre avec les barades du musée. Donc ça veut dire qu'on part du lait, on écrème le lait avec les crémeuses traditionnelles d'autrefois à manivelle, et ensuite on bat la crème pour obtenir du beurre. Dans la baratte, bien sûr, on ne fait pas du beurre avec la crème qu'on vient d'obtenir, parce que ça ne fonctionnerait pas, il faut qu'il y ait une maturation de la crème. Donc on explique tous les procédés, toutes les étapes de la fabrication du beurre.
D'accord.
Et à terme, dans 2 ans, nous aurons aussi 2 vaches qu'on pourra traire, et la boucle sera bouclée.
L'atelier sera complet, là.
Voilà, l'atelier sera complet, les gens
bonjour,
vont pouvoir
ça
traire.
Ça va être simple. Hein.
Ouais. si, c'est très simple. Si on a des vaches qui sont dressées, il n'y a pas de problème.
Ah bah oui, évidemment, si c'est des comédiens qui ont été formés pour.
Voilà, il n'y a pas de souci.
Très bien, bon, Jean-Luc Bourg, on vous remercie d'être venu jusqu'à nous pour évoquer donc cette fabrication d'objets en cuir dans le cadre d'un changement de vie, de nouvelles activités. Et puis, ce musée du pot-au-lait qu'il faut découvrir. Tout voilà. Ça en allant donc à Villaines-la-Juhelle. Plutôt sur les périodes printemps-été.
Oui, plutôt sur les périodes printemps-été, mais vous pouvez aussi téléphoner. Hein, vous faites notre numéro, vous cherchez sur l'annuaire notre numéro de téléphone, mais aussi sur Google, vous faites lepot-au-lait.com et c'est notre site.
Et on vous trouve et on peut aller vous visiter. Merci bien.
Merci.
C'était Jean-Luc Bourg, donc de Villaines-la-Juhelle, à propos donc de ces fabrications d'objets en cuir et surtout de ce musée sur les outils et l'histoire du traitement du lait pour aller vers le fromage et autres produits. Merci à vous. À Saint-Pierre-des-Nids, dans le cadre de Planète en Fête, on trouve bien évidemment toutes sortes d'acteurs qui ont toute leur pertinence sur les territoires. Et il y en a un qui a un acteur qui a une pertinence toute particulière depuis la loi Voinet de 99. C'est évidemment le Conseil de développement du pays. Nous sommes à Saint-Pierre-des-Nids. Nous sommes dans le pays de la Haute-Mayenne. Qui est voisin du pays de Haute-Sarthe, et il y a bien évidemment un conseil de développement sur ce pays de Haute-Mayenne. La réputation de ce conseil de développement, c'est plutôt assez dynamique, assez inventif. Enfin, c'est comme ça que il est plutôt globalement ressenti. Jean-Claude Louarn, vous êtes avec nous. Vous êtes retraité de l'enseignement et vous présidez depuis maintenant 5-6 ans, c'est ça?
Voilà, c'est ça, oui, à peu près. Oui.
Ce conseil de développement du pays de Haute-Mayenne. Max Marcelier, vous êtes membre du bureau et vous êtes référent d'Horizon Bocage. Vous n'allez pas vous étonner que, étant à Planète en fait ici, je vous demande qu'est-ce que c'est que ce truc-là, Horizon Bocage ?
Bon, ouais, Horizon Bocage est né de la volonté de quelques personnes du conseil de développement en 2001 qui ont décidé de travailler ensemble sur l'eau. L'eau qui nous semblait le domaine le plus important en 2001. Donc nous avons travaillé longtemps et nous avons été retenus par exemple à Leader Plus. Et nous avons quelques actions remarquables comme le ruisseau du Frêne à Saint-Frémbaud-de-Prière qui est redevenu un ruisseau patrimonial, c'est-à-dire sans ajout de truitelle et sans ajout d'eau, qui est devenu un ruisseau tout à fait normal, ou même en 2013, je pense qu'on peut consommer l'eau sans problème.
À ce point-là ?
À ce point-là.
Vous êtes resté sur les thématiques de l'eau, tant qu'on est sur les questions environnementales, ou est-ce que vous êtes élargi au fur et à mesure depuis 2001 ?
Voilà, au fur et à mesure du travail, disons, sur l'eau, il nous est apparu, surtout après Madame Churin, qui était responsable, qui était comme moi finalement, référente d'Horizon Bocage, et qui voyait plus loin. Et elle avait dit, il ne faut pas rester que sur l'eau, parce que c'est vrai que c'était réducteur. Elle dit, il faudra travailler sur l'environnement en général, et plus particulièrement dans le pays de Haute-Mayenne, sur les paysages, le bocage. Et les haies, déjà, il y a 3 ou 4 ans, la disparition des haies que tout le monde constate. Et puis... finalement, réfléchissant beaucoup et en travaillant avec tous les acteurs d'Horizon Bocage, nous avons eu l'idée de faire une charte paysagère et urbanistique, mais nous nous projetons quand même dans l'avenir, dans un avenir lointain, 10 à 15 ans. Je pense que nous allons motiver les Hauts-Mayennais et arriver à cette charte qui sera finalement un document non réglementaire et non opposable. Ce qui ne veut pas dire que les communes ne les prendront pas dans leur PLU et leur SCOT. Hein. Mais bon, pour nous, c'est la base du travail. Et donc maintenant, nous travaillons tous les jours. Nous sommes à mi-chemin du guet. Nous avons commencé vers 2010. 2011, beaucoup de réflexions. 2012, nous avons eu un ingénieur en médiation de l'Université d'Angers qui a établi avec tous les membres d'Horizon Bocage un diagnostic du pays de Haute-Mayenne. Et puis maintenant, nous avons une architecte et une géographe qui finalisent un peu le projet. Donc maintenant, nous sommes au livret. Il y a eu 3 ateliers de feuille. Le troisième est depuis hier à Planète, en fait. Et je pense que nous allons finaliser cette charte fin 2013.
Très bien, on a bien compris la logique sur laquelle travaille donc Horizon Bocage. On va revenir maintenant de façon plus générale sur le conseil de développement du pays de Haute-Mayenne. Jean-Claude Louarne, vous vous êtes trouvé engagé dans ce conseil de développement. En quoi cette implication dans un conseil de développement vous paraît importante ?
Bon, écoutez, il y a sans doute différentes formes d'assumer, si je puis dire, la citoyenneté. Moi, ça m'est apparu un contexte dans lequel on peut justement aller au bout des choses, ne pas se contenter de parler comme ça à droite et à gauche d'une situation, la situation du pays, mais aussi les situations plus générales, mais de passer à l'action à un moment donné, c'est-à-dire d'apporter, de réfléchir, d'apporter quelque chose de plus. Et en cela, également, enfin dans cette direction, apporter quelque chose de plus aussi aux élus, des avis différents, de l'expertise citoyenne.
Est-ce que concrètement, sur ce pays de Haute-Mayenne, vous avez eu le sentiment que les élus vous ont écouté avec attention ?
Bon, alors ça se... Disons que nous avons quand même beaucoup avancé. Au départ, En fait, nous étions les gens qui avaient été invités à participer à l'écriture de la charte pour les différentes qualifications que nous pouvions avoir. Hein. Et après, comme dans beaucoup de situations analogues, une fois que la charte est écrite, les gens disparaissent un petit peu de l'horizon, et pas de l'horizon bocage, bien entendu. Mmh. Voilà. Et donc, y a quand même eu un bon pourcentage qui est resté sur place et qui a décidé de continuer. Et ça a été un terrain d'expérience qui, justement, a permis d'aller plus loin, c'est-à-dire d'abord de mieux se connaître, de parler des choses, de penser les choses avec le même langage, en quelque sorte, ce qui n'est pas toujours évident. Hein. On utilise parfois des termes comme ça, que l'on pense être compris de la même façon par le voisin. Or, ça n'est pas ça du tout. Nous nous sommes organisés à partir du moment où le pays a quand même décidé de nous octroyer une attachée de mission, donc qui a permis justement de construire quelque chose.
Vous avez quelqu'un qui travaille avec vous à plein temps?
Alors maintenant, nous avons quelqu'un qui travaille avec nous à plein temps, nous défendons cette situation, qui est une situation que l'on pourrait dire un peu privilégiée par rapport à beaucoup d'autres conseils de développement, mais qui permet d'aller de l'avant. Le dernier travail de réflexion qui a été mis en place par le pays a reconnu que notre rôle était quand même un rôle extrêmement important et que nous faisions partie intégrante justement de la démarche générale.
Est-ce que vous avez délimité un certain nombre de périmètres dans lesquels vous intervenez par évidence? Est-ce que vous avez des possibilités d'autosaisine? Enfin voilà, oui. Comment ça se passe chez vous?
Alors en fait, la charte qui est en train de se terminer était basée sur cette ambition. Et donc c'est notre cadre de travail. Et nous avons également une feuille de route que nous avons travaillée et ensuite signée avec le pays. Donc, il nous donne un certain nombre de points de repère que nous respectons. Et autrement, ce sont surtout des autosaisines que nous avons décidé de faire par rapport à des discussions préalables qui déterminaient un certain nombre de points importants de réflexion à partir de la charte de pays. Et comme nous ne pouvions pas tout faire, nous avons choisi pour commencer la mobilité.
Savoir que c'est aussi un des éléments qui mobilise le pays de Haute-Sarthe, par exemple.
Oui, j'imagine.
C'est tout à fait logique, on est dans les mêmes problématiques.
Absolument.
La transversalité en matière de déplacement dans les espaces ruraux. Oui.
Voilà, exactement. Et une chose également liée à ça, d'ailleurs, ce qui nous intéressait aussi, c'était le besoin des jeunes enfants et de leurs parents en Haute-Mayenne. Quels étaient les problèmes qui se posaient aux gens qui...
Est-ce que vous avez émis des propositions sur ces questions-là?
Alors,
par exemple,
nos propositions apparaissent sous forme de synthèse, où il y a d'une part l'audit qui a été fait sur le terrain, puisque nous travaillons très en contact avec le pays, avec la population, le biais de réunions publiques, café débat, ciné débat, etc. Et donc, nous faisons paraître quand l'étude est terminée, nous faisons paraître ce qu'on appelle un sillon. Donc il y a eu plusieurs sillons et il y a
Qu'est-ce que vous appelez un sillon?
C'est une synthèse.
Voilà,
une synthèse qui est écrite donc au bout du compte
Est diffusée publiquement largement.
Voilà, exactement. Oui. Alors c'est un vrai travail d'écriture parce que nous voulions éviter dès l'origine d'avoir un langage de spécialiste. Donc nous faisons lire, relire, etc. avant de le faire paraître. Voilà. Et donc le dernier travail qui a été fait, c'est un travail sur l'attractivité, qui était, elle, une saisine qui nous avait été commandée par le pays de Haute-Mayenne. Voilà.
D'accord. Max Marsollier, vous avez pu évoquer tout à l'heure Horizon Bocage. C'est le seul domaine dans lequel vous vous impliquez au niveau du Conseil de développement. Quel regard vous avez-vous sur cette institution?
Depuis que je connais le Conseil de développement, c'est-à-dire une bonne dizaine d'années...
Vous y êtes depuis le début.
Je pense que c'est un travail efficace et qu'il faut continuer. Moi, je crois quand même qu'il faudrait motiver des jeunes, parce que on est quand même... Moi, personnellement, parlant mon nom, je suis quand même assez âgé. Ça me passionne, ça me fatigue. Mais par contre, j'aime bien travailler tous les domaines. Je me suis occupé avant aussi, entre-temps, je vous en ai pas parlé, mais de l'énergie, des énergies renouvelables. Donc, je suis allé en voyage en Allemagne d'études, en voyage en Suisse. et j'ai représenté le pays de Haute-Mayenne en Guadeloupe pour les énergies renouvelables. Donc et maintenant, bon, bah, je me consacre totalement à Horizon Bocage. Et je voudrais quand même profiter de cette interview pour dire qu'on a un président qui nous booste et donc j'ai envie de continuer.
Stop. Mais alors, voilà. Alors, bon, il faut un président qui tourne, il faut quelques implications fortes comme la vôtre. Est-ce que tous vos membres réussissent à s'impliquer, parce que souvent dans les conseils de développement, le problème qu'on voit, c'est que ce sont déjà les gens qui sont immensément impliqués, soit dans le monde de l'entreprise, soit dans le monde associatif, et que c'est pas facile après de rajouter dans le millefeuille des implications militantes celle du conseil de développement. Est-ce que vous avez ce type de souci, ou est-ce qu'au contraire vous avez une large assise?
Bon, écoutez, je crois que comme toute organisation, il y a des hauts et des bas. Alors, actuellement, on peut dire qu'on est un petit peu en train de rechercher un second souffle, mais bon, les choses continuent. Donc nous lançons tous les 2 à 3 ans une réflexion sur la façon dont nous procédons. Voilà, nous faisons un peu notre autocritique, parce qu'on commande toujours un regard extérieur sur le travail qui est fait, sur la façon dont on peut évoluer, voilà, et sur la façon également dont on peut faire venir davantage de personnes. Mais notre politique a toujours été de nous appuyer sur les associations locales, c'est-à-dire que nous pensons qu'un groupe actif et même réduit, qui a vraiment une conscience du terrain, qui peut s'appuyer sur les associations locales, peut également faire des choses extrêmement intéressantes, parce qu'il n'y a pas, à refaire tout un, comment dirais-je, une démarche sur place. On s'appuie sur des démarches ou des connaissances qui sont déjà bien établies. Donc il ne reste plus qu'à activer ça et à poser les questions, donc de cette façon-là aux gens, et on trouve en quelque sorte on compense, disons, quelquefois le manque d'effectifs.
Alors concrètement, une manifestation comme celle-ci, vous êtes partie prenante de cette manifestation.
Oui, bien,
donc quel est pour vous l'intérêt, l'impact que ça peut avoir, et qu'est-ce que vous y présentez?
Oui. Alors, l'intérêt, il est évident pour nous, puisque nous sommes très liés à tout ce qui est les énergies renouvelables, la biodiversité, enfin, etc. Donc c'est vraiment la manifestation idéale, où on rencontre tous les gens qui sont liés à ça. Donc on rencontre des têtes connues, évidemment, avec lesquelles on peut discuter encore un peu plus, et puis des gens qu'on arrive aussi à sensibiliser sur ce domaine-là. Alors, en ce qui concerne maintenant ce que nous présentons, alors, il faut dire que nous sommes à peu près tous les 2 ans sur cette manifestation. Donc, nous avons l'habitude de son fonctionnement. Et plus spécifiquement, cette année, nous travaillons sur un atelier qui est focalisé sur la charte paysagère urbanistique.
Je pourrais ajouter que... j'ai reçu tout à l'heure quelqu'un qui travaillait à Horizon Bocage, qui avait laissé tomber depuis 4-5 ans, 3 ou 4 ans du moins, et j'ai eu le plaisir de le rencontrer, et il veut revenir travailler avec nous.
D'où l'intérêt des rencontres dans les manifestations de ce genre.
Voilà.
Tout à fait. Très bien. On va vous remercier. On va vous rendre aux visiteurs. Donc, Jean-Claude Louarn, président du Conseil de développement du pays de Haute-Mayenne. Max Marsollier, membre du bureau de ce même Conseil de développement. On vous remercie d'être venu jusqu'au studio implanté en plein air, comme votre stand qui est juste en face là. Et qui a beaucoup de succès. Voilà. Et on vous rend donc à vos visiteurs. Merci à vous.
Merci.
Les micros de Fréquence Oscillée voyagent pour vous faire respirer et découvrir l'air du pays de la Haute-Sarthe. Et vivre des rencontres, des échanges, des entretiens en direct d'une manifestation, d'un lieu, comme si vous y étiez.
Fréquence Oscillée vous fait revivre tout l'été, planète en fête. Cette manifestation autour de l'agriculture biologique et du développement durable s'est déroulée les 6 et 7 juillet à Saint-Pierre-des-Nids, en Mayenne. À l'occasion des 10 ans de Planète en Fête, une équipe de fréquenciers y a installé son studio itinérant pour recueillir les interviews des participants, exposants, producteurs, acteurs du développement durable.